France Culture.
Que se passe-t-il aujourd'hui? Quelle est notre actualité? Se demandait Michel Foucault au début des années 1980 dans son cours au Collège de France. Que faire? Se demandait Lénine 80 ans plus tôt, au tout début du XXe siècle. Et c'est au fond pour tenter de répondre à ces deux auteurs et à leurs questions que le philosophe Pierre Dardot et le sociologue Christian Laval ont reformé leur célèbre duo et ajouté un volume de plus de 750 pages à leur bibliographie déjà conséquente. Instituer les mondes, c'est le titre de ce nouveau livre sous-titré « Pour une cosmopolitique des communs » et il prolonge leur ouvrage précédent « Dominer, une enquête sur la souveraineté de l'État en Occident ». Pierre Dardot et Christian Laval sont cette semaine les invités de la suite dans les idées.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Et c'est une écrivaine, Leslie Kaplan, qui nous rejoindra en deuxième partie de l'émission pour dialoguer avec les auteurs de ce très gros livre, Instituer les mondes. Une écrivaine pour qui la politique compte, a toujours compté, jusqu'à y compris dans son dernier ouvrage, L'Assassin du Dimanche, paru l'an dernier aux éditions POL. Et c'est un écrivain aussi, comédien, plus connu pour être comédien, mais auteur déjà de plusieurs livres, Denis Podalydès, qui nous rejoindra en dernière partie pour la rubrique Actualité, pour nous donner quelques souvenirs de Pierre Bourdieu. Bonjour Christian Laval.
Bonjour.
Bonjour Pierre Dardot.
Bonjour.
Vous signez tous les deux donc ce fort volume, vous poursuivez cette enquête, vous dites même dans ce livre que au fond ça n'aurait dû faire qu'un seul livre avec le précédent, ça aurait fait un livre énorme, donc vous avez préféré le couper en deux. Ce qui saisit à la lecture de votre introduction, c'est qu'on se dit en vous lisant que vous avez nécessairement, compte tenu du temps qu'il faut pour fabriquer un livre, rédigé ce texte avant que Donald Trump arrive au pouvoir. Or, tout y est, c'est-à-dire toutes les nouvelles qu'on entend, cette actualité dont parlait Michel Foucault et que vous citez au début du livre, cette actualité la plus immédiate, celle qui depuis un mois nous préoccupe, à savoir en particulier la manière dont Elon Musk est en train méthodiquement de détruire l'État américain, eh bien vous l'annonciez et vous n'êtes pas pour autant des devins, vous aviez tout simplement pris au sérieux ce qu'annonçait Donald Trump.
Oui,
Christian Laval.
On a travaillé depuis longtemps, c'est-à-dire depuis au moins une vingtaine d'années, nous travaillons ces sujets-là, et en particulier, nous avons commencé par travailler sur le néolibéralisme, et ça a donné donc la nouvelle raison du monde. Et puis, la question démocratique nous a toujours hanté, c'est-à-dire, contrairement à ce que Foucault avait laissé de côté, c'est-à-dire leur rapport entre néolibéralisme et démocratie, nous l'avons pris très au sérieux, et en 2016 par exemple nous écrivions un livre qui s'appelle Ce cauchemar qui n'en finit pas. Là je crois que le titre on pourrait le ressortir aujourd'hui et le sous-titre c'était Comment le néolibéralisme défait la démocratie. Bon, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un coup d'accélérateur, enfin il y a un coup d'État et en même temps un coup d'accélérateur de tendance qui était déjà là. Et en même temps, nous voyons bien que la question de l'État est absolument centrale. Elle a été mise de côté pendant des années. On s'est toujours dit, au fond, le marché envahit l'État, affaiblit l'État, etc. Mais on voit que c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que la question du souverainisme, la question même, je veux dire, de la domination de l'État sur les sociétés est une question d'une très grande actualité.
Oui, à quoi il faut ajouter que pour voir ce qui allait venir, il y avait un certain nombre de phénomènes et de signes qu'il suffisait d'interpréter. Par exemple, l'élection de Javier Milei en Argentine, dont on voit le rôle qu'il a joué, parce que c'est lui qui a inspiré Elon Musk, par exemple, avec la fameuse image de la tronçonneuse. Il la reprend, Elon Musk la reprend, volontiers, ouvertement, et c'est Javier Milei qui avait donné le là. Ce que je veux dire par là, c'est que le plan était très arrêté, il y avait une volonté de concentrer l'exécutif, de mettre les autres pouvoirs l'histoire en sourdine, et puis de s'atteler au démantèlement et à la destruction pure et simple des institutions de l'État social en Argentine. Or, que constate-t-on aujourd'hui ? On constate que ce que font Trump et Musk, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Donc la logique fondamentale est la même. C'est-à-dire, il y a une certaine concentration du pouvoir. C'est pas du tout l'anarcho-capitalisme, c'est pas du tout le libertarianisme, comme certains veulent le dire, même si ce sont des proclamations que Javier Milei, par exemple, ne dédaigne pas de faire. Mais je remarque que c'est pas exactement le discours qui est celui de Trump, parce qu'il prend tout à fait au sérieux le fait qu'il y a l'État, et il sait parfaitement user du poids de l'État et concentrer le pouvoir de l'État dans les termes du pouvoir exécutif, parce que c'est évident, c'est ce qu'il privilégie.
Alors depuis un mois, on voit autour des plateaux télévisés, à la radio aussi, des experts en géopolitique, je mets des guillemets, nous expliquer qu'on entre dans un monde nouveau, un nouvel ordre mondial. Ces gens-là ne travaillent pas sur le néolibéralisme, sur les politiques publiques, sur les transformations à l'intérieur des sociétés. Ils commentent des relations entre entités abstraites que sont les États ou les ONG ou les organisations supranationales. Et puis d'un autre côté, ceux qui travaillent vraiment du point de vue de la sociologie politique sur la manière dont les politiques publiques se construisent, la manière dont le néolibéralisme s'est incarné dans les politiques à l'échelle des nations en particulier, ou de l'Union européenne par exemple, ne s'intéressent pas vraiment aux questions de géopolitique. Alors j'ai le sentiment que vous essayez de tenir au fond les deux bouts avec ce livre, en rappelant à quel point on comprend rien si on n'essaye pas précisément de les tenir, et non seulement de les tenir, mais de trouver une forme d'articulation entre ces deux niveaux, Christian Laval.
Oui, l'articulation, on le fait à travers déjà le livre que nous avons consacré à l'État, c'est-à-dire à son principe qui est celui de la souveraineté, en qualifiant évidemment l'ordre mondial d'ordre interétatique et en montrant à quel point toute une série de problèmes, le climat, l'immigration, la finance mondiale, etc., butaient en fait sur une structure interétatique qui effectivement ne permettait pas du tout de les résoudre. Donc il y a ce point-là, donc la géopolitique, oui, bien sûr, mais en analysant finalement les catégories juridico-politiques qui organisent notre monde aujourd'hui et qui finalement permettent ou autorisent, je dirais, des États d'être plus souverains que d'autres, de s'emparer de territoires, etc. Et aujourd'hui, évidemment, il y a quand même quelque chose d'assez nouveau. On ne peut pas dire que c'est simplement la répétition du passé. Il y a quelque chose de nouveau qui est quand même le fait que le droit international est piétiné, que l'ordre international de 45 s'est effondré. Et tout ça est vrai, que les traités ne valent plus rien. Et donc, nous sommes dans une situation, en effet, qui est tout à fait nouvelle et qui appelle sans doute une réponse. Nous, ce que nous avons fait, c'est d'analyser, premièrement, comment en sommes-nous arrivés là. Je crois que tous nos travaux permettent de donner un certain nombre de réponses à cela. Et la question que nous posons dans ce dernier ouvrage, c'est comment en sortir. C'est-à-dire, quel type de stratégie pourrait-on développer pour en sortir ? Parce que c'est ça, quand même, aussi, alors, qui nous intéresse.
Je voudrais qu'on prenne beaucoup de temps de cette émission à cette dernière partie du livre, à ce que vous appelez des tracés, à ces perspectives, au fond, que vous essayez de dégager pour sortir de cette situation. Mais pour sortir de la situation, il faut quand même la décrire un minimum correctement. Donc, une dernière question, peut-être, Pierre Dardot, sur la situation dans laquelle nous nous trouvons, et dont l'élection de Trump est un révélateur, mais certainement pas le premier moment, loin s'en faut, évidemment, c'est une situation qui vient d'assez loin. Au fond, vous disiez le droit international, et en vous écoutant, Christian Laval est piétiné, mais en vous écoutant, je repensais à une émission récente ici avec Arnaud Aurin à propos de son livre sur les transformations du capitalisme, qui rappelait d'ailleurs que les États-Unis étaient la puissance qui rendait possible, en étant le gendarme, ce commerce mondial, et en même temps n'était pas signataire du traité sur le commerce mondial, ne l'avait jamais été au fond. Et donc on voit bien qu'on a affaire à deux ordres, l'ordre du droit d'un côté, et puis finalement ce qui prévaut, la puissance, les rapports de force entre États. Et décrit au Rhin, on est aujourd'hui dans ce type de moment, des moments où les rapports de force entre entités qui ne sont pas nécessairement des États, d'ailleurs, que des États en tout cas, joue un rôle beaucoup plus important. On n'est pas dans ce libéralisme du libre-échange fluide tel qu'on l'imagine, loin s'en faut.
Non. Non, c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on est très très loin d'une telle situation. Alors, à vrai dire, il y a une illusion qui a été colportée, entretenue, etc., par un certain nombre d'acteurs dans les années 2000, à la fin des années 90, au début des années 2000, en essayant de faire croire qu'on allait s'orienter vers un règne pacifié du marché qui allait étendre comme ça sa domination douce sur la totalité des pays. On a vu ce qu'il en était advenu, c'est-à-dire que tout s'est assez vite écroulé, tout le monde a commencé par déchanter, y compris ceux qui avaient colporté d'ailleurs ces illusions-là tout à fait au début. Mais la situation dans laquelle nous sommes, vous avez raison, est tout à fait singulière. C'est la raison pour laquelle on insiste beaucoup sur la singularité de la situation en ouverture, en reprenant les questions que Foucault posait dans les années 80. Et là, en l'occurrence, on a quoi ? On a un ordre international édifié après 1945 qui est en train non seulement de prendre toute part, mais de s'écrouler. Bon. Et puis, de l'autre côté, il est faux de dire qu'on a un nouvel ordre. Il n'y a pas de nouvel ordre. Il y aura peut-être un nouvel ordre demain, après-demain, etc. Mais pour l'instant, il nous semble complètement prématuré de parler d'un nouvel ordre. Alors, il y a une fin de l'ordre édifié en 45, mais il n'y a pas encore un nouvel ordre. Et ce qui fait que, justement, dans cette espèce d'espace, d'intervalle, il y a plutôt des rapports de force entre les puissances qui s'expriment de façon extrêmement crue, comme peut-être jamais par le passé. On l'a vu à propos du langage qui est celui de Trump, où c'est absolument hallucinant. C'est un langage... Il n'y a pas de négociation. C'est un langage qui est digne de la mafia. Purement et simplement. Et vous avez par conséquent des dictats. On dit à l'Ukraine, vous devez payer tant, même si la somme est complètement faramineuse et aboutirait, si elle était payée, en tout cas la première version qui a été donnée par Trump, à une faillite pure et simple de ce pays. Bon, il y a de la part de Poutine un langage, c'est pas simplement un langage, d'ailleurs des pratiques qui sont également des pratiques mafieuses, il n'y a pas de négociation. Il y a quand même, il faut le remarquer, parce que c'est pas pour nous encourager du point de vue de la situation, mais en même temps, il faut être parfaitement lucide pour précisément s'orienter et la combattre. Il y a des néo-fascismes, il faut appeler ça comme ça, qui prennent forme sous nos yeux, qui sont des acteurs assez redoutables, qui n'hésitent pas, le cas échéant, à faire alliance, malgré leurs divergences. Ça, c'est quelque chose d'assez important à bien comprendre. Alors, certes, il y a une différence, parce que l'État russe, l'État de Poutine, est un État mafieux, construit comme tel, ce qui n'est pas le cas de l'État des États-Unis. Mais il n'empêche qu'il y a des pratiques mafieuses, des pratiques qui sont des pratiques, comment dirais-je, fondées essentiellement sur les deals, sur les commerces, sur le fait qu'on va vous imposer telle ou telle chose dont vous ne voulez peut-être pas, mais nous, ça nous arrange et on va aller très vite. Voilà.
C'est même plus du deal, c'est du racket.
C'est du racket pur et simple, et ça se voit aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais on ne peut pas parler d'un nouvel ordre. Ça me semble complètement... Alors, il n'y a pas, comment dirais-je... On ne peut pas dire qu'on soit dans le chaos pur et simple. Là aussi, il faut être assez attentif à ce qui se passe. Il y a des choses qui peuvent s'ébaucher en termes de rapport de force entre des puissances. Il y a quelque chose qui a pris fin, inéluctablement, de sous nos yeux, mais il n'y a pas encore, justement, de nouvel ordre qui se dessine.
Christian Laval, dans votre livre, avec Pierre Dardot, vous revenez sur la manière qu'a eu la gauche de s'organiser pour contourner, au fond, les limites de l'État-nation dans lesquelles la politique se faisait et se fait toujours en grande part. D'abord avec le mot d'internationalisme, et puis ensuite avec le mot d'altermondialisme, qui n'est pas si ancien, ça nous renvoie aux années 1990. Et donc c'est toute cette histoire, depuis le début du XXe siècle jusqu'à récemment, que vous écrivez dans une bonne partie du livre. On ne va pas la refaire ce soir, on n'en a pas le temps, elle est très documentée dans votre ouvrage, c'est aussi ce qui explique sa longueur, mais... Vous, malgré tout, vous ménagez une place importante, et vous le disiez, aux perspectives d'avenir, et elles ne tournent plus autour de ces mots d'internationalisme et d'altermondialisme, dont vous pensez qu'ils ne sont plus opérants, mais c'est plutôt l'idée des communs qui vous inspire, et en cela vous prolongez une réflexion d'un livre antérieur que vous aviez co-signé sur les communs. Une réflexion sur les communs qui mène à ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une cosmopolitique. Pardon. Qu'est-ce que vous entendez par là et en quoi ça viendrait de manière efficace se substituer à l'internationalisme, à l'altermondialisme?
Ben, d'abord, il faut revenir quand même sur cette première partie. On va en effet pas déployer l'ensemble de l'argumentaire. En fait, la question que nous nous posons, c'est pourquoi la gauche, finalement, est totalement impuissante à dégager une stratégie nouvelle. On peut quand même s'étonner du fait que l'international ou l'internationalisme est une internationale néo-fasciste aujourd'hui. Enfin, quand on voit quand même toutes ces moments de rencontres,
ils ont l'air plus doués qu'à gauche pour.
Il y a une internationale des nationalismes. Mmh. C'est quand même le grand paradoxe de la période. La gauche est nationalisée. La gauche est devenue en fait une réalité essentiellement nationale. Est incapable de sortir des catégories juridico-politiques hérité justement de la construction des États-nations. C'est ça qu'on a voulu montrer. Et donc, tant que la gauche n'aura pas reconsidéré, revisité l'ensemble finalement des conditions qui ont fait qu'elle s'est laissée enfermer dans les espaces nationaux, on ne pourra jamais répondre.
Mais vous montrez, c'est pas une question nouvelle. Simplement, elle se pose autrement aujourd'hui.
Elle se pose de façon cruciale aujourd'hui. Alors, on a aussi essayé de montrer qu'il y a une autre perspective de la gauche qui s'est ouverte dès le début du XIXe siècle, qui était l'internationalisme, avec un autre espace, non plus l'espace des États-nations, mais l'espace du marché universel. C'est quand même là quelque chose d'extrêmement important et aussi finalement très actuel. Est-ce que la gauche, finalement, peut s'appuyer encore sur la constitution d'un grand marché universel, comme Marx, après les six Saint-Simoniens, pensait le faire? Puisque ça a été quand même ça. C'était l'économie qui, au fond, porter le projet internationaliste.
C'était le périmètre du champ de bataille, au fond.
Voilà. Le périmètre du champ de bataille, c'était le marché mondial. Et les gauches, en fait, se sont, elles, inscrites dans le champ de l'État, et même les plus internationalistes, comme ceux de la conférence de Zimmerwald, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement? Ils ont construit un État, l'État russe, l'État soviétique, qui a finalement commandé. Bon. Alors, il faut tirer les leçons des échecs répétés de toutes les formes d'internationalisme. Parce que, au fond, on pourrait dire très simplement aujourd'hui, bah, réinventons l'international. Recomposons finalement une grande organisation mondiale des gauches, etc. Bon. Nous, on pense que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qui se fait. C'est ça le point. Et ce qui se fait, c'est ça. C'est partir des réalités, voilà, des luttes d'aujourd'hui.
Voilà, vous êtes parti d'un certain nombre de réalités très différentes les unes des autres, disparates, qui se situent dans différents endroits du monde, d'ailleurs, à des échelles différentes. Et c'est ces expériences que vous décrivez et que vous avez décidé, au fond, de lier les unes aux autres pour voir ce que ça dégage. C'est ça la philosophie de cette dernière partie du livre, Pierre Dardot.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Nous sommes partis non pas de projets, de construction d'une nouvelle organisation internationale. En fait, l'échec de l'internationalisme, c'est d'abord et avant tout l'échec de la construction d'une organisation mondiale. Alors, ça a été le cas pour la première internationale, jusqu'en 1870 et après, lorsqu'il y a eu la scission. Ça a été le cas de la deuxième internationale, ça a été le cas peut-être plus encore de la troisième internationale, avec un projet qui était, alors là, c'était pas extrêmement ambitieux, c'était un petit peu fou, parce qu'il s'agissait d'unifier bureaucratiquement des partis qui devaient exécuter des ordres émanant du centre, avec tout ce que ça comportait. Bon, tout ça a été un échec terrible, il faut en tirer les leçons, effectivement. Et puis, la tentative de l'altermondialisme, qui n'a pas eu de suite, mais qui a tenté d'expérimenter des formes nouvelles, et tout cela n'a pas suffi, donc il faut réfléchir à ce qui se passe aujourd'hui. Et pour reprendre une formule de Marx que l'on cite dans l'introduction, il faut d'abord voir ce qui se passe. Il faut commencer par voir ce qui se passe. Et si on voit ce qui se passe, si on quitte un petit peu la superstructure qui est celle des représentations que les États veulent donner d'eux-mêmes, à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a dans le monde des mouvements qui sont très forts, qui ne sont pas très visibles, qui ne sont pas très manifestes, qui ne sont pas toujours liés entre eux, qui ne sont pas toujours coordonnés. Et c'est précisément un appel à la coordination de ces mouvements que l'on essaie de faire retentir dans les pages du livre. Alors, et en particulier les dernières.
Quels sont-ils? Donnez-nous des exemples, du Chiapas jusqu'à la ZAD Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Oui, alors, nous, on dégage finalement trois, ce qu'on appelle des irruptions cosmopolitiques. La première, c'est l'ensemble des réalisations, des tentatives, des expérimentations d'autogouvernement territorial. Il se trouve que un peu partout dans le monde,
des communes,
et depuis 35 ans, il y a des réalisations comme le Chiapas, comme le Kurdistan, mais aussi plus microscopique, plus... Bon, voilà, il y a la ZAD, par exemple, de Notre-Dame-des-Landes, qui est quelque chose qui a été quand même très important sur le plan du sens, la signification politique de ce que ça représente. Mais il y a aussi les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes... pas seulement dans les grandes manifestations plus ou moins violentes à Paris, mais sur les carrefours, etc. Bon, dans tous les ronds-points, partout, il y a eu des petites républiques, en fait, micro-localisées, qui se sont constituées. Donc, c'est toutes ces expériences-là qui mettent en évidence la question du territoire et du milieu de vie. Nous accordons aujourd'hui une grande importance à cela. Pourquoi ? Parce que c'est là, au fond, que se constitue quelque chose qui est une cosmopolitique. C'est-à-dire finalement une réorganisation des mondes, une réorganisation des milieux de vie avec des échanges entre les gens, des relations qui se tissent entre les gens, mais aussi avec l'environnement. La deuxième irruption, eh bien, c'est celle qui consiste dans les échanges entre les pays, les expérimentations transfrontières, les mouvements finalement qui justement dépassent tous les cadres nationaux. Et il y en a plein. L'écologie, le féminisme, les mouvements paysans, tout ça sont des expériences extrêmement intéressantes où on voit que le cadre national, finalement, joue beaucoup moins. Là, ce sont des formes qui échappent à l'État-nation. Et donc, il y a aussi une troisième forme extrêmement étonnante et très importante aussi, ce sont les mouvements autochtones qui, un peu partout, justement, manifestent des réalités politiques, des unités politiques qui ne sont pas inscrites dans les territoires de l'État. Et donc, on a affaire, justement, à quelque chose qui est une réalité presque extra-étatique, en quelque sorte, qui dessine, finalement, d'autres relations entre des unités politiques qui échappent aux vieilles catégories qui sont les nôtres encore, qui sont dominantes.
Alors, je comprends bien si on prend le premier ensemble d'exemples les exemples internationaux, vous parliez des mouvements paysans, du féminisme, sont des mouvements internationaux aujourd'hui. Il n'y a pas l'espèce de paradoxe peut-être ou de contradiction dans les termes qu'on peut voir dans la première et la troisième des catégories que vous avez citées, à savoir l'ancrage au fond, parfois dans un micro-territoire, et en même temps l'ambition à l'échelle global, en fait. Cette tension est, j'imagine, l'un des principaux problèmes à résoudre au plan politique. Comment fait-on de la politique mondiale sur un micro-territoire, Pierre Dardot ?
Alors, d'abord, il faut s'entendre sur l'expression de politique mondiale. Si ça veut dire une politique qui est d'emblée définie à l'échelle mondiale, je ne pense pas que ce soit très opérant aujourd'hui. En revanche, alors, c'est pas seulement une question d'échelle, c'est une question de savoir comment opérer à partir des actions, à partir des mouvements qui sont aujourd'hui expérimentés, qui sont construits avec beaucoup, comment dirais-je, parfois de tiraillements, parce que les expériences ne sont pas du tout homogènes, et fort heureusement d'ailleurs. Mais il y a quand même un certain nombre de lignes qui se dessinent, qui se dégagent et qui sont très très importantes. Alors, vous avez parlé du féminisme. Il y a en effet, moi je connais bien un peu la situation qui s'est déroulée en Argentine et au Chili à partir de 2015, 2016, 2017 pour aboutir justement à quelque chose d'assez remarquable, c'est-à-dire un mouvement transnational qui traverse justement les Andes, hein, la frontière étatique entre l'Argentine et le Chili, au point que quand il y a eu les primaires qui ont vu la victoire de Javier Milei, il y avait des féministes chiliennes qui s'adressaient à leurs homologues argentines en leur disant surtout ne lâchez pas la marée. Il y a une image qui est celle de la marée féministe. Ne lâchez pas la marée. Nous sommes toutes prêtes à traverser les Andes.
Hein, là, il y a une langue commune.
Il y a une langue commune, tout à fait.
Ça facilite là, aussi les choses.
Voilà. C'est vrai. C'est tout à fait. Là, il y a une langue commune. Il n'y a pas toujours de langue commune, mais il y a eu pendant la Covid, pendant la pandémie, un certain nombre d'expériences assez remarquables, justement. Ça se trouve sur un site qui s'appelle Les Féministes Transfrontières, et où il a été question de débats au sein d'une assemblée transnationale des féministes sur la question de savoir comment lutter contre, justement, les dangers, les conséquences hein, de la pandémie et surtout de l'enfermement et du confinement. Et ça, je trouve ça assez remarquable. À un moment où tout le monde était complètement recroquevillé sur le périmètre national, parce que c'était les États-nations qui avaient à ce moment-là, la main en ce qui concerne l'organisation, enfin, pour certains en tout cas, l'organisation de la parade. Mais je crois que c'est très important à comprendre le fait qu'il y ait justement des transnationalisations. Voilà, je préfère ça plutôt que transnationalisme. J'aime pas beaucoup parce que ça suggère une symétrie qui est complètement trompeuse avec internationalisme. Mais je crois que ça, c'est très important. C'est sans doute une des caractéristiques dominantes de ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est ça qui est important. C'est les pratiques transnationales et transfrontières. C'est pas une organisation, une nouvelle organisation mondiale.
Christian Laval.
Oui, ce qui est quand même aussi remarquable, quand on essaye de voir ce qui se passe selon la maxime de Marx que Pierre a citée, c'est qu'en fait, il y a aussi un phénomène nouveau, c'est le fait que les mouvements différents se transversalisent. C'est l'expression qu'on utilise, c'est-à-dire qu'au fond, on voit des échanges entre l'écologie et le féminisme, les mouvements paysans et les mouvements écologistes, les mouvements ouvriers, le mouvement écologique aussi. On voit donc quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner en silo, de façon complètement étanche, les mouvements, au fond, tendent à se réunir. Alors, il y a cette vieille expression convergence des luttes.
Mais... Oui, mais l'expression nouvelle de sciences sociales serait plutôt intersectionnalité que convergence des luttes.
Oui, mais une intersectionnalité pratique, voilà. C'est-à-dire mise en pratique dans les mouvements eux-mêmes. Mmh. Et qui permettent d'ailleurs, qui encouragent la transnationalisation, le caractère transfrontière.
Plutôt que convergence. Oui.
Alors, il vaut mieux... Ce qu'il faut faire, c'est précisément, selon nous, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est la méthode qu'on a suivie dans le livre, toujours partir d'exemples, toujours partir des mouvements tels qu'ils se sont déployés depuis 20 ou 30 ans. Avec une petite remarque, je reviens sur le début de l'émission, nous sommes dans un effet de sidération et il y a comme un oubli de tout ce qui s'est produit depuis les années 90. C'est-à-dire ces grands mouvements gigantesques à l'échelle de la planète. Le mouvement des places qui a fait le tour du monde. Enfin, dans toutes les grandes villes ont connu des mouvements extraordinaires, des insurrections démocratiques. Et c'est comme si, finalement, le coup d'État aujourd'hui de Trump et de Musk nous paralysait. Mais, au fond, c'est pas être grand prophète de penser que nous allons vers des grandes mobilisations, des insurrections, des soulèvements contre justement ces formes de néofascisme qui se déploient partout. Mais en face, il va y avoir une réaction. Et là se posera la question telle que nous la présentons dans le livre, c'est-à-dire la coordination de tous ces mouvements. Est-ce qu'enfin, quelque chose comme une grande coordination pourra s'établir pour renverser finalement ces régimes ?
Peut-être ce qui va être nouveau, et ça, les discours et les premiers actes de Trump nous y font penser, c'est que des gens, des agents de l'État vont devoir mettre en œuvre des pratiques différentes, des pratiques de résistance à l'intérieur même des appareils d'État, à la manière des paysans, mais les paysans sont leurs propres patrons parfois ou peuvent se permettre ce type de comportement. S'agissant des fonctionnaires, ça va être intéressant d'observer ce qui se passe aux États-Unis. On a appris que certains viennent de démissionner de ce département des coupes budgétaires. Je ne sais pas, vous qui observez ce qui s'est passé en Argentine, est-ce qu'on a vu des choses intéressantes déjà de ce point de vue, Pierre Dardot ?
Alors, on a vu des pratiques de résistance, bien sûr. Hein. Il y a eu des pratiques de résistance, notamment dans les universités, mais aussi des pratiques de résistance en ce qui concerne les mouvements autochtones, les mouvements des Mapuches, puisque récemment, Javier Milei a décidé d'envoyer la police militaire dans des parcs nationaux parce que, précisément, les Mapuches s'y étaient regroupés. Donc, il y a, bien sûr, des choses dont on ne parle pas, qu'on ne voit pas, mais il y a des résistances, bien sûr qu'il y a des résistances. Et il faut compter aussi là-dessus, d'ailleurs, le fait que ce qui se passe à l'intérieur de l'appareil d'État aux États-Unis encourage en tout cas à voir là un certain nombre de signes qui peuvent être mis en relation avec aussi des pressions exercées directement par la masse des citoyens. Donc il faut, et ça c'est parfaitement le cas aussi, la situation de Milei en Argentine est particulièrement critique en ce moment à cause de ce qu'il a fait concernant, en encourageant quelqu'un qui a joué sur les bitcoins. Bon, les voilà. Mais tout ça bien sûr va se produire. Donc il y a des fractures à l'intérieur même des partis. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, dans le Parti républicain, qui commencent à s'agacer du rôle démesuré qui est celui de Musk, parce qu'ils considèrent que c'est un danger, y compris pour le Parti républicain lui-même. Et de fait, la situation est quand même absolument abracadabrante. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un, Musk en l'occurrence, qui n'a pas été, il n'y a pas de décret, on ne dit pas que ce type-là est en charge du département qui est justement celui de l'efficience de l'État. Pas du tout. Il n'est pas nommé en tant que tel. On a sorti le nom d'une obscure, comment dirais-je, administratrice pour le Doge, justement, mais qui, en réalité, n'est pas du tout nommée par Trump. C'est l'arbitraire total, mais vraiment l'arbitraire le plus total. Donc, y compris à l'intérieur de l'État, il me semble qu'il y a des choses qui se préparent, des fractures, et les démissions sont assez encourageantes de ce point de vue-là. Mais il faut que ça ait un relais dans dans la masse des citoyens. Voilà, c'est...
Christian Laval.
Oui, juste, on a cité Marx, on a cité Foucault. Je voudrais citer Bernie Sanders, le 2 décembre de l'année dernière. « Despair is not an option ». Le désespoir n'est pas une option.
On continue de parler d'Institut Lémon, de votre livre, Pierre Dardot et Christian Laval, dans la deuxième partie, avec l'écrivaine Leslie Kaplan qui nous rejoint. C'est après un extrait de l'album qui vient de sortir de Liminianas, un album sur lequel ils ont invité différents musiciens, chanteurs, en l'occurrence c'est Bertrand Belin, avec un titre qui résonne avec ce livre aujourd'hui, « J'adore le monde ».
J'adore le monde, les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde, car il y a le temps, l'espace que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore le monde, la pluie qui vient du ciel tombé dans l'oubli. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit, y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol, quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, petit. Tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque, exactement juste à côté, pas en dessous, pas n'importe où. À côté de la plaque, de quack en quack, échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break, n'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. je suis pas dans Star Trek. Le monde, faut faire avec. Faut faire avec le monde. Avec. Tout petit, 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 petit. Tout petit, tout petit, petit. Tout petit, petit, petit. Tout petit, tout petit, petit. Faut faire avec. Le monde avec tout petit petit, tout petit petit petit.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Instituer les mondes, c'est le titre du livre de Pierre Dardot et Christian Laval dont nous parlons aujourd'hui à la suite dans les idées. On en parle avec Leslie Kaplan. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et vous aussi vous vous souciez du monde, y compris lorsqu'il est aplati. Enfin, c'est la Terre qui est aplatie. Oui. Dans l'un de vos livres récents qui regroupait des contes oui. politiques.
Oui.
Et l'idée, c'était bien celle-là d'un monde que vous imaginiez aplati et à propos duquel il s'agissait de trouver des issues de secours, en quelque sorte.
Oui. Mais, bon, un peu pour rebondir par rapport à ce qui a été dit, en fait, bon, moi j'ai commencé à lire Pierre Dardot et Christian Laval avec La Nouvelle Raison du Monde.
Leur livre sur le néolibéralisme.
Voilà. Et en fait, ce qui m'a vraiment frappée, à part tout, c'était le dernier chapitre qui, au fond, décrivait ce que je pourrais, enfin, ce qu'ils ont appelé, je crois aussi, un sujet, bon, néolibéral. Et ça m'intéressait particulièrement parce que, bon, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui est comme ça ? Bon, c'est-à-dire, en fait, pour qui la compétitivité est la seule voie, où il y a finalement tout le temps de la concurrence, l'idée de la performance, performance sportive étant au maximum, etc., etc. Et je retrouvais là, en fait, des choses que moi, je crois que j'essayais de travailler autrement, en particulier dans mon théâtre à l'époque, bon, qui était vraiment la question du cliché. C'est-à-dire comment on peut être pensé par cliché, avoir une tête pleine de vide finalement. Bon. Et j'ai essayé de mettre ça en scène, bon, dans Toute ma vie j'étais une femme, dans Louise elle est folle, dans Déplace le ciel. C'est-à-dire, et j'ai justement parlé d'une civilisation du cliché. Et qu'est-ce que ça donne et comment on s'en sort, bien entendu. Bon, c'est quand même la question. Et en fait, bon, comment on s'en sort ? Enfin, il y a bon, difficile à dire exactement.
Au moins par où on en sort ?
Comment ?
Au moins par où on
oui.
en sort ?
Par où on sort ? Ce qui me revenait, bon, c'est des choses certainement, bon, à cause d'une expérience en mai 68, la question de réintroduire toujours le conflit et les questions. Et j'avais même créé un personnage qui s'appelle Miss Nobody Knows, qui pose sans arrêt des questions. Et ça résonnait complètement, finalement, avec ce qui était exposé là. Et ça m'a donc vraiment, vraiment intéressée. Bien sûr, j'ai continué à lire et tout. Et il me semble que, bon, c'est vraiment aussi une façon de... Bon, disons de lutter, on va dire, contre des façons naturalistes d'écrire. Bon, ça que j'ai toujours essayé de faire, mais bon. C'est-à-dire une écriture qui dit c'est comme ça, ça peut pas être autrement. Alors, bon, on n'arrive pas toujours, mais disons, écrire avec la question du possible, écrire avec la question de l'ouvert, ça m'a toujours paru, même quand j'ai écrit sur l'usine, etc., indispensable pour qu'il y ait une vraie écriture. Bon, voilà. Alors, je crois que c'est pour ça qu'il y avait vraiment des résonances.
Christian Laval, Leslie Kaplan vient de le dire, la question des possibles, des ouvertures, des sorties
oui.
est très présente dans son œuvre. Vous lui avez accordé une grosse part dans ce livre, mais c'est un second temps pour vous, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une écriture naturaliste dans le premier temps, mais vous êtes dans la description. Vous citiez Marx tout à l'heure, on aurait pu citer John Dewey par exemple, c'est-à-dire qu'il faut mener des enquêtes, et il faut tout simplement décrire le monde dans lequel on se trouve, mais pas pour le plaisir de la simple description, pour pouvoir imaginer la suite.
Voilà, c'est l'imagination qui importe pour nous, et cette imagination, elle est ancrée dans des pratiques. C'est-à-dire qu'au fond, on attache une grande importance, évidemment, bon, à ce qu'on appelle souvent, après Eric Olin-Wright, des utopies réelles. Mais en fait, nous parlons plutôt de pratiques, ou de pratiques utopiques, si on veut, on pourrait parler ainsi. C'est-à-dire comment les pratiques ouvrent des univers nouveaux, des mondes possibles. C'est pour ça que ce qui nous plaît beaucoup, justement, dans ce que fait Leslie, par exemple, c'est que par la littérature, justement, on dégage, justement, par le roman, par le conte, par le théâtre, on dégage, justement, des univers possibles, et donc aussi des mises en cause des sujets actuels, des formes actuelles de vie. C'est d'autres formes de vie, donc, qui sont présentées. Alors, après, comment les gens s'en emparent, quel est l'effet de la littérature? Ça, c'est Leslie qui pourra répondre à cette question, question difficile. Que peut la littérature, Leslie?
Que peut la littérature? Mais peut-être avant celle-là, comment s'y prend la littérature? C'est-à-dire, quel est votre rapport à cette actualité de laquelle nous sommes partis pour cette émission ce soir?
En fait, il me semble que, disons que, par exemple, on peut partir pour moi, je pense souvent en termes de personnages, quand même. Et qu'est-ce que c'est qu'un personnage qui, des formes, disons, actuelles de l'aliénation, un personnage qui perd l'expérience? Il n'y a plus d'expérience. Il n'y a que des schémas, des codes, des clichés, comme j'ai dit, des choses consensuelles. Mais l'expérience, intellectuelle et sensible, elle est dissoute. Et elle est dissoute, parce que justement, il y a des couches et des couches de normes. Et, il faut évidemment montrer à quel point la norme elle-même est folle. Il y a un renversement. Je crois que c'est très important. Et il me semble que plein d'écrivains, bien avant moi et maintenant, etc. J'ai écrit un texte pour montrer comment Copie, Buñuel, Beckett pratiquent le renversement. C'est-à-dire que vraiment, on part de choses habituelles, de rapports de force, par exemple, en attendant Godot, etc. Personnage de Pozzo. Et comment ça se renverse? Comment ça peut se renverser. Et ça, je crois que c'est des exemples concrets dans une forme qui est la forme littéraire. Pour moi.
Et une forme qui voyage aussi, une forme qui peut jouer son rôle dans ce cosmopolitique que vous appelez de vos voeux, Pierre Dardot.
Oui, mais ce qui me paraît très important, c'est justement ce qui a été souligné concernant le rôle de l'imagination. Parce que il est question dans le livre des pratiques, il est question aussi des expériences. Il est beaucoup question des expériences. Et l'imagination à laquelle nous en appelons, parce que de toute façon les mouvements l'expérimentent même, c'est une imagination expérimentale. C'est pas du tout une imagination architecturale du type de celle qui prévalait, par exemple, à la fin du 19e siècle, quand on construisait des plans de société idéale.
Avec des théories et des grands concepts, voilà, avec majuscules.
Exactement, oui. Oui, il s'agissait de faire rentrer la réalité à l'intérieur d'un corset qui était celui d'une construction tout à fait idéale. Ça, c'est pas du tout l'imagination telle qu'elle est amenée à se pratiquer aujourd'hui.
Leslie Kaplan, vous citiez mai 68 tout à l'heure, qui a été un moment historique très important pour vous. Est-ce que de ce point de vue-là, il y a un vrai changement? Il y avait des expériences et des pratiques, mais il y avait aussi un attachement peut-être à la théorie beaucoup plus grand qu'il n'est aujourd'hui.
Oui, mais je pense que concrètement, dans une usine occupée, c'était pas tellement le problème de la théorie. C'est ce qu'on pouvait inventer un peu au jour le jour, les rapports aussi ouvriers, étudiants, des choses comme ça. Évidemment, ça marque, ça marque surtout parce que c'est complètement nouveau, même dans le contexte des années 60.
Votre livre, d'ailleurs, L'excès usine, a reparu en poche il n'y a pas si longtemps.
Pardon ?
Votre livre, L'excès usine, a reparu en édition de poche il n'y a pas si longtemps. C'est à ce livre-là dont
oui, ben c'est vrai.
auquel vous faisiez référence. Donc la littérature, vous auriez pu rajouter un chapitre, au fond, sur la littérature comme lieu de l'invention de ces possibles.
J'ai fait le saut dans la fiction en écrivant un roman, Marx en Amérique. Donc je m'y suis essayé directement. Donc c'est aussi là de l'ordre de l'expérience.
Merci beaucoup, Christian Laval, Pierre Dardot. Je rappelle le titre de ce livre, Instituer les mondes pour une cosmopolitique des communs. On a cité plusieurs livres de Leslie Kaplan. On les mettra sur la page aussi de l'émission. Mais je voudrais citer L'Assassin du Dimanche, qui est le dernier paru en 2024 aux éditions POL.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Alors c'est un livre sur lequel on voit une petite photographie de Denis Podalydès avec un chapeau de paille sur la tête dans un jardin. C'est le premier titre d'une collection, Camera Obscura, qui débute donc chez Julliard, à l'initiative de quelqu'un que vous connaissez bien, auditrice et auditeur de cette chaîne, Caroline Brouet. Ce premier titre est donc signé Denis Podalydès. Le principe de la collection, Denis Podalydès, bonsoir, c'est de partir d'une photo pour tirer les fils, au fond, de souvenirs que cette photo convoque. Vous avez choisi une photo, peut-être vous pourriez nous dire quel est le décor dans lequel vous posez avec ce chapeau de paille.
Alors, c'est une photo prise dans la maison de Pierre Bourdieu, la maison de vacances dans le Béarn, la région où il est né, dans un petit village qui est près de Pau et où j'allais en vacances pratiquement tous les étés entre l'année 83 et l'année 93. 10 années où j'ai fréquenté la famille Bourdieu très, très fréquemment, presque quotidiennement par certaines périodes.
Vous étiez devenu, à certains égards, le quatrième fils de la famille.
Mais c'est comme ça que Marie-Claire Bourdieu m'appelait, et ça me faisait non seulement très plaisir, mais ça me procurait une émotion aussi dont j'avais sans doute besoin à cette époque-là. Ma famille était en voie d'un peu de dislocation à cette époque-là. Mes parents se séparaient, l'atmosphère était très... très lourde dans ma propre famille, et j'ai retrouvé dans la famille Bourdieu quelque chose de lumineux, d'accueillant, d'amical aussi, parce que je me suis lié à Emmanuel Bourdieu, qui est toujours mon meilleur ami, et aux deux autres frères, Laurent et Jérôme Bourdieu, et avec qui j'ai noué une amitié qui dure toujours.
Vous vous êtes rencontré avec Emmanuel Bourdieu, qui est devenu cinéaste après avoir fait de la philosophie, après avoir fait une thèse, un livre important en philosophie. Je me rappelle avoir fait une suite dans les idées avec lui il y a fort longtemps, quand ce livre a paru aux éditions du Seuil. Vous vous êtes rencontré en Hippocagne, en fait, au lycée Henri IV, Denis Podalydès.
C'est ça, dans l'année 83-84, au lycée Henri IV. C'était un garçon qui était très très différent de tous les autres. Il y avait une sorte d'esprit de compétition. C'était une... Moi, on m'avait monté le bourrichon avec ça, en me disant il faut intégrer, il faut... On avait l'impression d'être dans une espèce de course à 40 élèves. Et Emmanuel était tout à fait à part, beaucoup plus jeune que tout le monde, parce qu'il avait 2 ans d'avance à peu près. Et des grands yeux, une grande timidité et en même temps un humour, une gentillesse et un esprit qui m'a frappé aussi par son acuité, l'imagination qui était la sienne, les goûts. Il était tout à fait surprenant et en même temps c'était quelqu'un qui ne se mettait absolument jamais en avant, qui était d'une humilité totale. Et j'étais moi-même dans de grands doutes à ce moment-là. Je ne savais pas très bien si ces cagnes allaient m'emmener vers Normalsup, ou j'avais un vieux rêve de théâtre, mais qui était encore tout à fait dans les limbes, qui était quand même assez précis, mais ça me semblait un monde inaccessible. Et Emmanuel, lui, rêvait de cinéma. Et puis on a mis en commun ces rêves inaccessibles, et puis ça... Notre amitié a fait en sorte aussi que tout cela... que sous sa prenne, sous l'œil très bienveillant, protecteur, et un peu taquin aussi de Pierre Bourdieu, qui a suivi, disons, ces années de formation, à la fois avec beaucoup de distance et très très proche de ses fils, qui fait qu'à certains moments, très important pour moi, il m'a tendu la main.
On retrouve dans votre livre un Pierre Bourdieu assez différent de celui que ceux qui l'ont croisé dans le monde académique ont en tête, probablement. Tout simplement, sans doute, parce que c'est un Pierre Bourdieu qui se retrouve dans des groupes avec des gens pour qui il n'est pas un maître à penser ou un grand esprit. C'est tout simplement leur père ou le père de leurs amis ou le mari. Et du coup, ces gens se sentent tout à fait libres d'être taquins à leur tour, à son
Exactement.
Endroit. Et au fond, voilà, c'était aussi comme ça qu'était Pierre Bourdieu, très très différent de celui qu'on pouvait découvrir dans un séminaire où beaucoup de gens étaient très impressionnés en fait.
Alors dans sa famille, il ne jouait jamais la posture ni du prestige, ni de l'autorité, ni du retrait dans sa tour d'ivoire, alors qu'il travaillait énormément. Il était très souvent dans son bureau. Et en vacances même, le matin, le midi, le soir.
Ça, on imagine, vu le nombre d'articles et de livres publiés.
Oui, j'étais fasciné par cette capacité de travail. Et en même temps, quand il était avec la famille, il était vraiment pleinement avec tout le monde et au même niveau, ce qui fait qu'on blaguait, on rigolait beaucoup. Il faisait jamais le maître. J'étais très étonné par... pour moi, il ne correspondait pas du tout à l'image que je me faisais d'un grand intellectuel quand il était parmi les siens. Oui, pardon.
Non, ce livre n'a pas dû être facile à écrire parce que vous avez voulu, et ça se sent, être fidèle aussi à une manière d'être au monde de Pierre Bourdieu et dont ses fils ont clairement hérité, qui est fait d'une certaine pudeur, d'une discrétion. Et voilà, et donc il s'agissait de partager quelques souvenirs, des choses anecdotiques parfois, mais qui en disent long, sans non plus... tomber dans une chronique d'un sociologue star, quoi. C'est vraiment tout le contraire, ce livre. Mais il est sur une crête, il est sur un fil.
Oui, parce que dans la commande qu'il y avait de Caroline Brouet, il y avait une dimension biographique et autobiographique, puisque je me racontais dans le contact avec cette famille. Mais il fallait aussi du biographique. Mais j'ai eu une correspondance aussi avec les frères qui suivaient un peu le travail. Je m'étais absolument engagé. D'abord, il fallait que j'aie leur autorisation et à leur montrer l'état du livre. Parce que je ne voulais pas frapper cette pudeur de... je voulais pas du tout les heurter. C'était pas du tout un livre où j'avais envie de mettre en avant ce que je savais d'intime, de l'intime de Pierre Bourdieu, vous voyez. Et Jérôme Bourdieu, dans un mail, m'avait dit ce qui est intéressant, c'est ce qu'aimait aussi Pierre, c'est l'autobiographie impersonnelle, ce qui pouvait y avoir de public et de et les rapports de la sociologie avec notamment un jeune étudiant en théâtre. Je sais que Jérôme, c'était une des choses qui l'intéressait et ça m'intéressait aussi de raconter ça, comment ce sociologue pouvait percevoir chez ses enfants et chez les amis de ses enfants des vocations qui différaient énormément de la sienne et comment quel regard il pouvait poser là-dessus. Surtout que moi, je lui prêtais quantité de pensées, d'ailleurs, par des idées fausses, j'en parle dans le livre, je lui prêtais, eu égard à une forme d'austérité intellectuelle qu'il avait, de refus de toute forme de parade, d'emphase, d'exagération, etc. Je lui supposais une certaine réticence, même plus que ça, même vis-à-vis du théâtre. Je le lui prêtais. Et ce qui fait que quand je faisais du théâtre, j'imaginais sur lui, et j'imaginerais de lui un regard plus sévère sur ce que je faisais. C'était une façon aussi de contrôler d'ailleurs mon propre travail, parce que j'aimais son exigence intellectuelle, j'aimais son absence totale d'affectation, et je trouvais qu'il y avait dans cette famille un naturel social, un naturel dans les idées intellectuelles, dans les goûts aussi, dont j'avais envie de m'inspirer. Et ça a accompagné aussi toutes mes études, non seulement mes études en caille, mais mes études théâtrales.
Il y a un chapitre magnifique dans lequel on voit au fond
une partie de la naissance de ce grand livre qui est Les règles de l'art. Et comment, au fond, la relation que vous avez avec Emmanuel Bourdieu et à ce moment d'incertitude quant à vos parcours professionnels et les échos que ça fait avec l'éducation sentimentale, participe d'une sorte de réflexion collective qui est celle aussi bien de Pierre Bourdieu que celle d'Emmanuel ou la vôtre de Denis Podalydès.
Oui, c'est vrai, c'était un livre qui était à la fois notre fétiche, Emmanuel et moi. On se projetait un peu dans les rôles principaux de ces jeunes gens de l'éducation sentimentale pendant la période de 1848. Et Pierre s'était énormément investi dans ce travail et connaissait sur le bout des doigts le champ social littéraire de cette époque-là. Et nous, on se reflétait à la fois donc dans le roman de Flaubert, mais aussi dans le travail de Pierre. On avait l'impression qu'il y avait le regard de Flaubert et celui de Pierre. Ils se superposaient. C'était une façon de nous voir à travers eux, de voir avec une certaine distance ironique, d'ailleurs, et aussi de sentir le moment dans lequel nous étions, ce que Pierre, d'ailleurs, appelle, à propos des personnages de Flaubert, la pesanteur sociale. C'est des jeunes gens qui hésitent entre des voies artistiques, voie universitaire ou voie commerciale, voie de la réussite sociale, comme Frédéric Moreau dans l'éducation sentimentale, qui est à la croisée des chemins et qui tient finalement à cette position, à la croisée des chemins, qui choisit de ne pas choisir, qui diffère indéfiniment la carrière, la vocation. Et j'étais personnellement tout à fait dans cette disposition-là. Et de l'avoir aussi bien objectivé à la fois par Flaubert et par Pierre, curieusement, ça permettait de prendre une distance comique vis-à-vis des tourments aussi qui étaient liés à cette position entre des voies multiples. Et moi, j'ai cultivé ça peut-être même plus longtemps qu'Emmanuel, puisque j'ai commencé les études de théâtre, puis je suis revenu à la philosophie dans laquelle je finissais par me perdre d'ailleurs.
Le comique est très présent dans le livre et l'occasion aussi de faire un portrait de vous, notamment quand l'un des petits-fils de Pierre Bourdieu vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Toi, tu es un farceur grimaceur ».
Oui. Oui, cet enfant m'avait dit ça et j'avais eu le sentiment vraiment d'être vraiment démasqué dans ce que le métier d'acteur peut avoir de grimaçant, d'exagéré, enfin tout ce que je n'aimais pas, et je prêtais aussi à Pierre la haine de tout ça. Mais c'était une façon aussi d'exorciser un peu ça. Je me sentais très partagé entre un désir histrionique, me montrer, monter sur scène pour faire le beau, et dire des grands textes, me soumettre à de grands metteurs en scène. Donc j'avais aussi cette ambivalence-là, elle était au cœur même de ma vocation. D'ailleurs, ça l'est toujours, d'ailleurs, au cœur de beaucoup d'acteurs, on est toujours partagé entre l'envie d'en faire et d'en faire beaucoup, et l'envie de s'effacer au profit d'une situation, d'un texte, d'une œuvre.
Farceur, grimaceur, en tout cas, ça a bien fait rire Pierre Bourdieu qui a ajouté « Il t'a eu, hein, il t'a bien piégé. » Pigé, oui. Pardon. Et ça, piger les gens, vous êtes très admiratif de la capacité qu'avait Pierre Bourdieu à comprendre les gens rapidement.
Oui, ça, je crois qu'il avait ce don-là depuis toujours. Il entrait en conversation avec quelqu'un et immédiatement, il trouvait un terrain très simple d'entente, se mettant tout à fait à la bonne distance, c'est-à-dire ni trop familière, ni surtout supérieure. Et ce qui fait que les gens se confiaient à lui en toute liberté et ne calquaient pas leur langage sur celui qu'il présupposait d'un homme savant.
C'est ça qui fait.
Ça se voit dans ces entretiens de la mise en scène.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est ce qui fait un bon intervieweur en sociologie et ça se voit dans ce livre collectif auquel vous aviez participé comme enquêteur, Denis Podalydès, La misère du monde. Merci beaucoup, l'ami de la famille, souvenir de Pierre Bourdieu.
Merci à vous.
Le livre paraît aux éditions Julliard. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Seam Boutata, à la technique ce soir Jordan Fuentes, à la réalisation Jean-Christophe Francis.